Avoir raison avec Judith Butler. De toutes celles et ceux, écrivaines, philosophes, biologistes, architectes venus des États-Unis et dont il a été et sera question dans cette série d'Avoir raison avec, cet été sur France Culture, Judith Butler est la seule encore vivante. La seule donc à ne pas avoir, encore fini d'écrire, de s'engager et peut-être même d'évoluer. On a commencé d'évoquer hier le cadre philosophique et conceptuel dans lequel s'intègre Judith Butler et nous continuerons de le faire tout au long de cette semaine. Mais il nous faut aussi, dès aujourd'hui, aller explorer du côté de son engagement féministe. Car lorsque la philosophe américaine publie Gender Trouble en 1990, paru en 2005 en France sous le titre Trouble dans le genre aux éditions La Découverte, elle s'adresse d'abord aux féministes avec lesquelles elle est en conflit. Dans les premières lignes de son essai, traduit par Cynthia Krause, Judith Butler regrette que la théorie féministe a presque toujours tenu pour acquis qu'il existe une identité appréhendée à travers une catégorie de femmes qui non seulement introduit les intérêts et les buts féministes dans le discours, mais définit également le sujet pour lequel la représentation politique est recherchée. Elle propose donc d'introduire du trouble dans cette identité, cette catégorie de femmes construite selon elle sur une norme hétérosexuelle, ce qu'elle appelle « normative heterosexuality », l'hétéronormativité. Le contexte de la fin des années 80, début des années 90, est précisément celui d'une grande prolifération des dénominations de différentes identités sexuelles, des façons de performer le genre, gay, lesbienne, femme, butch, drag, trans. Si le genre est socialement construit, qu'il n'y a pas d'essence du masculin et du féminin, mais que ses rôles sont en permanence joués et rejoués dans l'espace social, alors il faut se pencher sur ces pratiques sexuelles qui ne sont pas « normales » entre guillemets évidemment et qui mettent en question la stabilité du genre, nous dit Butler. Il faut plonger dans les zones queer, gender trouble, théorie queer et études de genre. C'est le thème de ce deuxième volet de notre série « Avoir raison » avec Judith Butler.
In some American discourses on the left.
Dans certains cercles ou dans certains discours politiques menés à gauche aux États-Unis, il était et reste d'ailleurs aujourd'hui encore important d'affirmer l'identité de quelqu'un au préalable pour pouvoir expliquer ce qu'est cette identité et ensuite développer un point de vue qui, dans une certaine manière, est justifié par cette fameuse identité qui a été posée. Et pour être tout à fait honnête, ce mode de discours politique me rendait complètement folle. Je pense que pendant un certain temps, en tout cas, la politique de gauche aux États-Unis se souciait tellement de cette élaboration de différentes identités, d'ailleurs, que par rapport à d'autres problèmes sociaux ou politiques, les problèmes d'égalité, de justice, de liberté, toutes ces questions-là étaient peut-être en retrait. Et je pense qu'il y avait à ce moment-là un certain nombre de théories françaises qui m'ont permis de remettre en cause la cohérence intérieure du sujet, la cohérence intérieure notamment de ce que l'on appelle le genre. Et par genre, ce que j'entends ici, c'est tout simplement la formulation culturelle du biologique. Comment le sexe biologique est vécu, comment est-ce qu'il est vécu concrètement, comment est-ce qu'il est également présenté, comment est-ce qu'il est rendu compréhensible, abordable en tout cas dans la sphère publique et sociale.
Bonjour Sam Boursier.
Bonjour.
Vous êtes activiste queer et transféministe, sociologue, maître de conférences à l'Université de Lille et fondateur du collectif Le Zoo. Alors pour commencer cette émission, j'aimerais vous demander, comme je le ferai avec chaque invité cette semaine, dans quelles circonstances vous êtes entré en contact avec Judith Butler, dont on vient d'entendre la voix là, et expliquer comment elle en était arrivée à écrire Trouble dans le genre, c'est-à-dire à la fois une approche théorique, mais aussi ancrée dans un énervement, un agacement face à la façon dont la politique, la gauche traitait la question de l'identité. Comment est-ce que vous êtes entré en contact avec son travail et qu'est-ce que ça a pu produire chez vous ?
Alors, je réponds d'autant plus volontiers à cette question que c'est vrai que pour moi, ça a été un moment très important de rencontrer d'abord le livre, en tout cas, Gender Trouble, et ça s'est fait dans une librairie féministe et anarchiste de Camden, à Londres, et je pense que c'est important parce qu'en France, on a vu...
Alors, ouais, là, il y a un petit problème de connexion avec avec Sam Boursier. J'ai oublié de dire que Sam Boursier n'était pas en studio, mais en duplex, enfin pas tout à fait en duplex, mais plutôt au téléphone depuis un lieu qui n'est pas situé en France. Ce qui explique peut-être ces petits problèmes de connexion. Espérons que ça ne se reproduise pas trop souvent au cours de cette émission, car Sam Boursier est notre seul invité et pour cause, c'est l'auteur de Queer Zone. Hein, Sam Boursier, on vous a récupéré, je crois. J'étais en train un petit peu de meubler ce petit moment de on vous a perdu. Vous racontiez que vous aviez découvert Gender Trouble dans une librairie à Camden, à Londres.
À Londres, une librairie féministe et anarchiste. J'étais pas formée féministe du tout à l'époque. Moi, j'avais pas trouvé ni la théorie, ni la politique féministe en France. Et je vois Gender Trouble, ça me parle. Je l'achète par hasard, en même temps que le bouquin d'Alperine sur Saint-Foucault. Et là, c'est la révélation. C'est vrai que c'est un livre qui a changé ma vie, que j'enseigne maintenant depuis plus de 20 ans. Et je pense que c'est aussi parce que je suis rentrée assez facilement dedans. Moi, j'étais un bébé du post-structuralisme. On biberonnait vraiment Derrida, Lacan, Deleuze, Foucault, Anormal Sup, mais jamais j'en avais fait ce que Butler en faisait, c'est-à-dire que à la fois elle en faisait une pensée féministe et pour moi elle les repolitisait complètement. Donc ça a été vraiment une rencontre fondamentale pour moi. Dans le contexte que vous rappeliez au départ des années 90 où il y avait une explosion, une prolifération des identités, des expressions de genre.
Oui, je vous en prie, non, parce que je voulais revenir sur ce que vous disiez sur le fait d'avoir été biberonné au post-structuralisme et les auteurs que vous avez cités. Ce qui est intéressant avec Judith Butler, elle le dit dès la préface de ce livre, Trouble dans le genre, c'est qu'en fait, elle met en relation des auteurs qui ne sont pas forcément lus ensemble. Il faut citer également Monique Wittig, évidemment, théoricienne une féministe très importante aux États-Unis, française, mais plus importante aux États-Unis qu'en France, où elle a été un petit peu oubliée. Il y a une vidéo en ce moment de France Culture qui tourne pour rappeler un petit peu qui était cette figure.
Oui, mais je sais, puisque c'est moi qui ai traduit la pensée straight en France. On connaissait que la Monique Wittig littéraire, hein, et pour cause. Et de fait, le fait qu'elle définisse l'hétérosexualité comme régime politique, ça a été fondamental pour moi, et sans doute pour Butler. Après, là, j'entendais l'extrait de Butler qui critiquait la politique, je ne sais pas si c'est la politique de la gauche américaine, en tout cas la politique des identités, et nous, on l'a pris à l'envers, cette histoire. C'est-à-dire que là où Butler, par exemple, prenait chez Deleuze et chez Foucault des positions très anti-identité, je dirais pas identitaire, hein, nous, on a fait l'inverse. On s'est dit, bon, en France, dans un contexte très universaliste, très républicain, pour nous, la théorie queer et les pratiques queer et les politiques queer, parce que tout ça était lié, hein, il y avait déjà des cultures queer, ça va être d'affirmer la politique des identités, c'est-à-dire de pouvoir dire je suis butch, je suis femme, je suis lesbienne, etc., sans qu'on nous dise mais comment, les cases, ça n'existe pas, tout en ayant une position post-identitaire, c'est-à-dire en étant bien conscient que, évidemment, tout ça est très construit et que c'est plus un instrument stratégique qu'une essence. Après, sa critique du sujet féministe dans son premier chapitre de Gender Trouble, évidemment, pour nous, c'était fondamental. Parce que surtout en lisant Wittig, on a bien compris qu'elle disait aussi, étant lesbienne elle-même, Judith Butler, que le sujet lesbien politique n'était toujours pas bienvenu dans le féminisme, en fait.
Oui, on parlera demain de la réception en France du travail de Judith Butler avec Éric Fassin, mais d'ores et déjà, on entend une première forme de malentendu, et vous avez compris que c'est à dessein qu'on avait sélectionné cette première archive sur la question de l'identité pour montrer à quel point Judith Butler, elle, est dans un contexte américain où, en effet, cette approche par l'identité lui pose problème, puisqu'elle veut déconstruire, évidemment, une identité qui est fondée sur une vision de la femme hétérosexuelle, hétéronormative, pour reprendre son expression. En France, comme vous le dites très bien, Sam Boursier, il en sera à nouveau question demain encore une fois, on prend les choses un petit peu à l'envers. Mais alors, puisque j'ai prononcé le mot, que je disais que vous aviez été, que vous êtes également l'auteur de Queer Zone, qui est une trilogie qui a été publiée aux éditions Amsterdam en 2018, et que Judith Butler est souvent associée aux études queer. Elle même dit qu'elle l'a découvert un petit peu tard, hein, qu'elle appartenait à ce mouvement-là. Est-ce que vous pourriez nous le définir, une tentative de définition du queer qui littéralement signifie étrange, bizarre, suspect, bref, c'est un peu comme toujours dans ces histoires de discrimination, une façon de récupérer un stigmate.
Oui. C'est compliqué de l'entendre en français parce que nous, on ne comprend pas le potentiel de l'injure que représente queer et qui en gros veut dire sale pédé, sale gouine, qui était utilisé même dans les années 50 dans la culture américaine justement pour stigmatiser les gays et les lesbiennes. Après, politiquement, ça voulait dire antinormatif. Et maintenant, ça veut dire que les agendas queer politiques sont plutôt contre les agendas politiques homonormatifs, c'est-à-dire les gays et les lesbiennes qui veulent s'assimiler, qui se définissent comme étant des personnes du même sexe quand elles se marient, par exemple. Donc, ça a toujours été, enfin, c'est devenu quelque chose vraiment d'important comme mouvement critique à l'intérieur des cultures et des politiques LGBT, mais ça partait des cultures, ça partait de la drag queen, ça partait des drag kings, de toutes ces cultures de genre qui sont en train de se perdre au fur et à mesure que les gays et les lesbiennes s'assimilent. Donc voilà, pour nous, c'était ça que ça voulait dire, c'est-à-dire profiter des ressources, pas spécialement subversives, mais culturelles de genre qui étaient les nôtres et qui en fait sont assez processuelles et évoluent, se chassent l'une l'autre. Il y avait Butch le lendemain où il y avait déjà l'apparition des personnes trans.
Alors vous avez déjà employé le terme, je pense qu'il faut le définir, le terme de Butch, le terme de femme, qui sont de façon, par exemple, de vivre en tant que lesbienne, ou son identité de lesbienne, par exemple.
De décliner pour une butch, par exemple, une masculinité féminine qui n'est pas hétéronormative ou hétérosexuelle, et de décliner une identité femme qui se crie d'ailleurs femme, qui n'est pas celle de justement l'identité femme que critique Judith Butler. Et puis c'est vrai qu'en France c'est important parce qu'il y avait un contexte très essentialisant sur les femmes, sur le féminisme et la différence, contre d'ailleurs lequel s'est élevée Monique Wittig.
Féminisme de la différence, c'est vrai que, je l'ai dit, c'est un contexte d'opposition entre deux types de féministes. Le féminisme aux États-Unis, on opposait le féminisme de la domination, en quelque sorte, au féminisme pro-sexe. Est-ce que vous pourriez rappeler rapidement, encore une fois, il sera aussi question jeudi avec Alice Adler, cette fois-ci, de la question du rapport de Judith Butler au féminisme. Et je pense qu'il est important d'ores et déjà de rappeler ce contexte, parce que, comme je le disais, Trouble dans le genre s'ancre vraiment dans cette histoire du féminisme américain.
Oui, alors pour ce qui est du féminisme pro-sexe, c'est plutôt quelque chose que nous on a réélaboré, c'est-à-dire tout ce qui est devenu féminisme post-porn, etc., et qui s'est lié à la connexion du féminisme pro-sexe aux États-Unis, donc qui a réagi par rapport justement à des alliances que faisaient les féministes avec des religieux, des catholiques, des évangélistes et des gens de la droite pour interdire le porno, pour dire qu'il était performatif ou pour interdire la prostitution, etc. Le lien s'est fait comme ça, mais ça passe pas tellement par Judith Butler, parce que le trouble dans le genre est vraiment focalisé sur le genre, ce qu'apporte vraiment trouble dans le genre, c'est plutôt que de parler de sexualité ou de politisation des sexualités, c'est plutôt un nouveau paradigme qui nous a complètement donné de la force. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire que le genre est une construction. Beaucoup d'anthropologues dans les années 50 le disaient, ils n'étaient pas féministes pour autant. Mais quand on dit que le genre est une construction, même chez Christine Delphi, on a l'impression que c'est du béton armé, que c'est construit comme, et on ne voit pas trop comment on pourrait le bouger. À partir du moment où Butler, en s'inspirant d'ailleurs des travaux anthropologiques sur la drag queen, les female impersonators de Esther Newton, travaillent sur la performance dans un premier sens théâtral de la féminité, en l'occurrence exercée, exprimée par des personnes dites de sexe masculin. Là, on va avoir quelque chose complètement différent, parce que l'idée, c'est de dire, bon voilà, le genre, c'est une performance, la féminité et la masculinité, ce sont des imitations sans originaux. On voit bien qu'une drag queen peut décliner un genre qui, soi-disant, est discordant par rapport à son sexe dit biologique, et pour autant, elle n'en meurt pas. L'autre partie qu'elle ajoute, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même une élaboration théorique assez complexe, puisque comme vous le disiez pour commencer, elle justement, moi c'est ce qui m'avait beaucoup plu en lisant Gender Trouble, la manière dont elle pouvait mettre ensemble Derrida, la performativité d'Austin, et puis le féminisme et les questions de genre. Elle dit que le genre est une performance, soit ça c'est le côté plutôt théâtral, mais que le genre est aussi une performativité. Donc ça c'est un paradigme assez révolutionnaire, et qui vous donne de la force, parce qu'on se dit, voilà, la performance normative de la féminité ou de la masculinité ont besoin de se répéter pour exister. Mais, comme c'est pas naturel, comme il n'y a pas de rapport causal entre le sexe qui causerait le genre ou de rapport d'expression nécessaire entre le genre qui exprimait le sexe, eh bien, on peut répéter de travers. Donc, et en même temps, on voit que tout le monde est obligé de répéter pour naturaliser, faire exister une féminité ou une masculinité de référence. Donc pour nous, ça nous a vraiment, mais ça à la fois, ça nous a éclaté la tête théoriquement et politiquement, mais c'est très important de voir ça, c'est que c'est ce qu'on vivait aussi dans nos, en tout cas moi dans les subcultures, c'est vrai, plutôt anglo-saxonnes, que je découvrais, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. Et d'ailleurs, Butler, quand elle a fait quelque chose qui pour nous était vraiment incroyable et très très positif, c'est-à-dire de mettre au centre de son travail théorique une figure qui était quand même pas très valorisée. Qui
était la figure du drag queen, voilà. Évidemment, dont il est question dans Trouble dans le genre, dans un autre ouvrage postérieur qui est Bodies That Matter, Les corps qui comptent, Judith Butler dit « Le genre n'est pas un artifice qu'on endosse et qu'on dépouille à son gré, et donc ce n'est pas l'effet d'un choix, c'est aussi une façon de répondre aux critiques hein, sur le genre, voilà comme quoi la théorie du genre, peut-être qu'il faudra faire un sort d'ailleurs à cette façon d'exprimer la pensée de Judith Butler, la théorie du genre c'est chacun peut faire ce qu'il veut, une forme de libertarianisme où chacun peut choisir son genre et qu'il suffit d'aller piocher une robe dans un vestiaire pour se transformer en quelque sorte et choisir un autre genre. Elle arrive à démontrer l'inverse, Judith Butler.
Tout à fait. Nous aussi, on nous a opposé cette critique qu'on changeait de genre comme de chemise et qu'on était des individualistes forcenés et que tout ça était un effet du capitalisme qui avale toutes les identités individualisantes. Bien sûr que c'était pas ça. Pareil, mais quand même, le fait est que la critique qui était adressée à Butler et qui était peut-être juste à l'époque et qui ensuite a été résolue par d'autres théoriciens, je pense. Et nous, d'ailleurs, on était dans cette conception peut-être hyper discursive du genre, parce que, bon, moi, je venais de là, quand même, la théorie post-structurale, c'est avant tout une réflexion et une utilisation du langage comme outil. C'était très discursif, et du coup, on pouvait penser que le corps, là-dedans, même si je pense que ces corps qui comptent est une tentative de remettre le corps au centre, était un peu absent.
Oui, discursif, vous avez cité tout à l'heure rapidement Austin, c'est John Austin évidemment qui est l'auteur de Quand dire c'est faire et qui parlait de cette performativité du langage. Alors on comprend que Judith Butler dans Trouble dans le genre s'intéresse à la fois à la question des normes et des états limites et elle le fait, vous l'avez dit, en interrogeant aussi cette façon dont le sujet est à la fois soumis à la norme mais aussi se construit avec et contre cette norme. Et justement, elle s'exprimait sur la question du mariage gay, c'était au micro de Sylvain Bourmain sur France Culture.
Example of gay marriage.
Par exemple, avec le mariage gay, bien sûr, je suis en faveur du mariage gay.
At the same time, I see that the recognition
mais en même temps,
the gay, lesbian, trans movement
je constate que la reconnaissance à laquelle sont parvenus les mouvements gays, lesbiens, trans, cela a tendance à se normaliser maintenant. La vie des gays, des trans ou la sexualité queer ou tous les individus qui vivent dans des formats relationnels qui échappent au mariage, tout cela existe. Donc, je trouve ça magnifique que le mariage homosexuel ait été reconnu. Mais en même temps, ça a un côté un peu normalisateur. Il porte une censure, il apporte une normativité. Mais on ne sait pas comment ça va évoluer. Je crois que c'est intéressant de suivre ce que ça devient, parce qu'on permet à tout cela de fleurir, mais en même temps, je crois qu'on produit aussi des empêchements, des souffrances. I want to break free.
France Culture, il est 12h19, vous écoutez Avoir Raison avec Judith Butler et notre invité aujourd'hui est le sociologue et activiste queer Sam Boursier. Ce trouble lancé dans le genre, nous dit Judith Butler, peut être une façon de subvertir les normes mais aussi paradoxalement de réidéaliser, de renaturaliser ces normes hétérosexuelles. C'est frappant aussi dans le clip de I Want to Break Free, ce tube s'il en est dans lequel le chanteur Queen, de Queen Freddie Mercury chante son désir de libération, de coming out, mais il le fait, si vous vous souvenez du clip, travestie en ménagère en train de passer l'aspirateur et de faire la vaisselle. Et on a vraiment là, finalement, toute la complexité aussi de ce travail de Judith Butler, à la fois sur les normes, la lutte contre les normes et la façon dont elle détermine aussi la façon de constituer son genre, même à la marge, Sam Bourcier.
Oui, enfin, moi je dirais que ce discours qu'elle a sur les normes est très représentatif de la théorie queer de la première vague, dont elle est la principale figure des années 90. Et quand elle utilise, c'est même un peu étonnant, qu'elle utilise le paradigme genre comme norme, après justement avoir élaboré un paradigme beaucoup plus explosif comme genre, comme performance et performativité. Alors je sais que c'est très présent dans Défaire le genre, qui est un ouvrage aussi qui parle de manière aussi beaucoup plus consensuel, justement, des politiques du mariage, etc. Mais moi, je trouve que, et d'ailleurs, beaucoup de gens, malheureusement, lisent plutôt Défaire dans le genre, parce que c'est beaucoup plus simple que
Trouble dans le genre.
Gender Trouble. Mais en fait, que Trouble dans le genre, pardon. Mais en fait, et d'ailleurs, il y a une espèce de... Oui, enfin, et ça s'agit, Butler, dans ce bouquin. Je pense que, je ne sais pas si c'était une stratégie, mais c'est pour être peut-être beaucoup plus consensuel. Il faut bien comprendre que les mouvements queer actuels qui sont très actifs en Espagne, au Brésil, en Argentine, en Italie, et même en France, et qui sont peu audibles finalement dans les médias, sont tout à fait contre le mariage. Ils ne sont pas contre des transformations d'affiliation. Mais enfin, vraiment, et ils ont un rapport beaucoup plus, comment dire, critique aux droits et aux politiques de l'égalité. Donc là, je trouve qu'il y a une vraie différence entre son côté un petit peu... Parce que finalement, bon, c'est peut-être plus important de transformer la filiation, de faire des enfants de manière différente, mais se marier, vraiment, demander la reconnaissance de l'État. Alors je conçois bien qu'il puisse y avoir des avantages économiques et financiers, mais on voit maintenant, avec le recul, que ces politiques profitent essentiellement, on va dire, à une classe gay et lesbienne, plutôt aisée et blanche, y compris aux États-Unis. Vous avez vraiment les auteurs théoriques importants maintenant, y compris aux États-Unis, comme Dean Spade, mais aussi ailleurs dans d'autres pays, qui sont vraiment très très critiques de la politique de l'égalité des droits qui passerait par le mariage, d'autant que ça évite toute la question justement de la redistribution économique, de la justice sociale, de la manière dont le néolibéralisme est en train de bouffer nos vies.
Oui, c'est ce que disait Judith Butler dans la première archive qu'on a entendu, hein, l'importance aussi de poser ces questions. Alors ce qu'on appelle peut-être un peu rapidement l'intersectionnalité aujourd'hui, qui permet de ne pas penser une question toute seule.
Oui, alors deux choses. La théorie queer de la première vague, que ce soit Butler, De Lauretis et d'autres, est très très blanche, pas du tout intersectionnelle. Et quand on lit Gender Trouble, on voit bien qu'en fait, elle essaye aussi de dire justement que le sujet femme ne doit pas être monolithique, parce que les femmes qui frappent à la porte de l'université, où elle est pas loin d'ailleurs, à Santa Cruz, sont les latinos, les chicanas. La première personne qui a utilisé le terme de queer, c'est Gloria Saldúa, qui n'a jamais eu sa thèse ou qui l'a eu post-mortem. Et par ailleurs, vous voyez, enfin, je crois vraiment là que... En plus, Butler n'a jamais été marxiste ou matérialiste. Et maintenant, il y a un vrai courant matérialiste et marxiste très, très foisonnant, très, très intéressant. Donc là, je crois qu'on voit bien l'écart qu'il y a entre des époques, et c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, moi, à l'époque, j'étais aussi plus proche, on va dire, de Butler, enfin, ce côté, justement, post-structuraliste, et j'étais beaucoup moins dans les perspectives... comment dire, économique, social, voire dans le marxisme queer, et jusqu'à ce que ça m'affecte et que ça affecte tout le monde autour de moi, avec des gens qui, en Italie, en Espagne, en France, des étudiants, n'ont aucun horizon, sont précaires.
Oui, c'est
donc
un livre qui est écrit...
La thématique de la précarité...
Oui, pardon. Ouais, pardon. Ce que j'allais dire, c'est que Trouble dans le genre, c'est un livre qui est écrit dans un contexte politique
oui,
aussi, du tournant des années 80 vers les années 90, où, comme vous le dites, les enjeux de l'engagement sont moins liés à des partis politiques, à des idéologies politiques, et vont migrer à la fois dans le champ académique, mais aussi dans le champ de l'engagement. Je pense à ACT UP, par exemple, contre dans les mouvements, sur la question du SIDA, et donc sur un engagement militant qui se fait en dehors dehors des partis politiques et des idéologies telles qu'elles ont pu se développer. Au passage, sur la question du matérialisme et du marxisme, je renvoie vers la grande traversée Karl Marx en ce moment sur France Culture, où on est avec un premier épisode hier qui est longuement revenu sur les relations de Marx avec cette question du matérialisme. Mais ce que je voulais dire, Sam Bourcier, pour continuer sur Gender Trouble, sur Trouble dans le genre, ce livre fondateur, en effet, mais donc forcément un peu daté, puisque c'est dans les années 90 de Judith Butler, c'est que malgré tout, il a permis de mettre à l'agenda la question de l'ordre sexuel. Et c'est ça aussi qu'on lui doit à ce livre.
Oui, je crois que ça a été plutôt une formule française, la question de l'ordre sexuel. D'ailleurs, on parle d'ordre sexuel, on parle de genre. Enfin, c'est vraiment un livre sur les genres. Et d'ailleurs, moi, je serais pas du tout, enclin à mettre sous le tapis la dénomination, enfin la théorie du genre, parce qu'en fait, dans le premier chapitre de Butler, mais aussi dans le premier chapitre de Technologie de genre de Deloretis, qui est une autre justement féministe queer qui va développer un autre paradigme très important, qui est celui du genre comme technologie, elles, qu'est-ce qu'elles veulent quand elles arrivent à l'université? C'est faire la théorie du genre. Alors, il se trouve que le terme a été complètement repris par les évangélistes, par les catholiques, par les anti-mariages pour tous, etc., etc. Mais je crois et c'est vrai que le mouvement LGBT français s'est un peu pissé dessus, avait un peu peur justement de se réapproprier. Mais non, la théorie du genre, on l'a fait très très bien. Et c'est une théorie féministe. Donc ça, je crois que, et franchement, et c'est très bien comme ça. Encore une fois, Gender Trouble, c'est pas tellement sur les sexualités, c'est pas tellement sur l'ordre sexuel, c'est sur un féminisme différent, qui dit le sujet et l'horizon du féminisme, et ça c'est toujours polémique, hein, ça n'est pas la femme, nécessairement. Ça veut donc dire qu'est-ce que c'est qu'une femme? Après, nous, on a décliné tout ça, qui n'était pas nécessairement d'ailleurs dans le livre, notamment dans les cultures trans. Comment se fait-il qu'on puisse devenir un homme et pas à partir d'un sexe dit féminin, etc., etc. Donc, vraiment, il n'y avait pas d'intersectionnalité à l'époque, en tout cas au niveau notamment de la question de la race, qui est totalement absente de troubles dans le genre. Et puis, c'est venu après. Et puis, la problématique économique, là, est matérialiste. Elle est importante parce que elle nous dit aussi que, justement, elle problématise la question de la politique des droits. Et elle problématise aussi le fait que, bon, est-ce que vraiment on doit continuer à envisager quel régime politique nous faut-il? Est-ce qu'on doit continuer à être dans un régime parlementaire, dans une démocratie totalement excluante et exceptionnaliste, même si elle dit le contraire partout? Ce qui est riche en ce moment, je trouve, dans les mouvements queer, c'est que vraiment, ils sont dans la question de l'autonomie. Certains sont même très influencés par le mouvement opéraïste italien. Donc là, et ça, c'est pas la culture de Butler. Quand elle parle de l'Assemblée, quand elle parle, c'est d'une manière, on va dire, démocratique, un peu molle, un peu, alors que, voilà, là, il y a vraiment des gens qui disent, non, il faut vraiment être nous-mêmes, nous sommes des constituants, nous sommes une assemblée constituante, nous pourrions fonctionner autrement politiquement, comment faire? Donc, c'est vraiment quand même des univers politiques très, très, très différents. Alors, et certains les qualifieront de radicaux, sauf que ça fait un bout de temps que ces questions-là sont posées.
Pour terminer, Sam Bourcier, sur cette...
Allô?
Oui, vous m'entendez? Je suis...
Allô?
Oui, on a perdu...
Excusez-moi.
Vous m'entendez là, ça y est? Sam Bourcier?
Oui, je vous entends.
Ah, parfait. Alors, il nous reste quelques secondes.
Oui, je vous entends très bien.
Il nous reste quelques secondes simplement
je vous entends.
Pour revenir sur ce livre. Sam Bourcier, pour terminer, en un mot sur Trouble dans le genre. Ah non, bah voilà, on vous a perdu, Sam Bourcier. J'ai peur qu'on soit obligé, puisqu'on arrive au bout de l'émission, de partir. Ah, non, voilà. Bon. Allô? Sam Bourcier?
Vous m'avez entendu sur précédemment, du coup?
Non, alors je vais être obligé
oui,
de vous remercier.
Allô, je vous
entends très bien.
Bon, cette fin de... Je vous entends très bien.
C'est une fin d'émission un peu chaotique, Sam Bourcier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous a entendu pour l'essentiel de l'émission. Heureusement, à partir de demain, notre invité, Eric Fassin, sera en direct et en studio pour parler de Judith Butler et d'avoir raison avec Judith Butler. C'est terminé. Vanessa Nadjar était à la réalisation, à la prise de son aujourd'hui. Sylvain Latu, et donc comme je le disais, notre invité demain sera Eric Fassin.